La semaine dernière, nous sommes arrêtés sur un texte, on va le relire, tiens, on va commencer par ça. Un texte dans Jean. Vous m'auriez corrigé, je pense, hein, ceux qui étaient là la semaine dernière. Jean, chapitre 17. Un chapitre qui est une prière, comme vous le savez. La prière de Jésus, juste avant son arrestation, et il a tenu à ce que ses disciples soient les témoins, les auditeurs privilégiés, et de ce fait, nous connaissons cette prière, la manière dont Jésus a prié pour ses disciples, ceux de ce jour-là, ses premiers disciples, et aussi tous les autres disciples qui suivraient, c'est-à-dire nous. Les choses importantes dans cette prière, mais on va s'arrêter une fois encore sur le premier paragraphe, la première partie. Je vous lis les 5 premiers versets donc de cette prière de Jésus, appelée la prière sacerdotale. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit « Père, l'heure est venue ». Glorifie ton Fils afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. C'est au travers de cette parole que nous trouvons, parole de Dieu que nous trouvons dans ce livre, qu'on appelle la Bible, que Dieu s'est fait connaître, que Dieu s'est révélé, bien évidemment. Cela n'empêche pas qu'il y a une grande part de mystère encore pour nous quand il s'agit de Dieu et les choses que nous savons, les choses que nous connaissons le concernant parce qu'il les a révélées, il a fait connaître sa nature, ses plans, ses projets pour nous, pour l'humanité. Mais il y a beaucoup plus de choses en Dieu que nous ne savons pas que de choses que nous savons. C'est un peu comme l'univers, cet espace que les hommes essaient d'explorer, essaient d'aller le plus loin possible. On envoie des sondes très très loin, Philae par exemple, à des millions d'années, à des millions de kilomètres de la Terre, et essayer de connaître cet univers. On est dans la période de la nuit des étoiles. Et les gens regardent un peu au travers de télescopes, regardent qui n'est pas très loin de nous, en fait. Donc, on est mieux informé de notre environnement spatial immédiat qu'il y a quelques siècles, c'est sûr. Mais il n'empêche qu'on ne sait pas grand-chose quand même. Quand on sait qu'on est dans une galaxie, qu'il y a des milliards de galaxies comme la nôtre, enfin voilà, on ne connaît rien, en fait. On est à la périphérie. On sait à la périphérie ce qui se passe un peu autour de la Terre, mais au-delà, avec Dieu, c'est pareil. On sait, grâce à sa parole, on sait qui il est, ce qu'il est venu faire, les choses que nous savons et qu'il a tenu à ce que l'on sache, que l'on croit et qui nous font du bien, qui sont la base même de notre foi. Puis Dieu est plus grand que l'univers, alors vous imaginez. C'est ce que l'apôtre Paul appelle les profondeurs de Dieu. Lorsqu'il parle de l'Esprit de Dieu qui sonde tout, même les profondeurs de Dieu. Il faut que ce soit l'Esprit de Dieu pour sonder les profondeurs de Dieu. Pas les hommes qui peuvent sonder les profondeurs de Dieu. Mais Dieu a tenu à ce que on sache un certain nombre de choses le concernant et la prière de Jésus. Ce soir-là, elle va révéler quelque chose d'essentiel, d'important, concernant Dieu lui-même, la relation entre le Père et le Fils. On pourrait l'étendre, bien sûr, avec le Saint-Esprit, puisqu'il en parle dans le chapitre 16. Et Jésus fait cette révélation extraordinaire lorsqu'il nous dit « Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. » Avant que le monde soit. Ça fait un petit moment déjà. Depuis toute éternité, nous étions dans cette relation ensemble, cherchant mutuellement à se glorifier l'un l'autre. Le Père, le Fils, le Père, le Saint-Esprit, le Fils. Et ça nous a amené, la semaine dernière, à rappeler quel est le plus grand désir de Jésus. Le plus grand désir de Jésus. Alors on pense parfois que le plus grand désir de Jésus, c'est de sauver l'humanité. Hein? Mais ce n'est pas le plus grand désir de Jésus de sauver l'humanité. C'est un désir, un grand désir certainement. Comme le désir du Père, mais le plus grand désir de Jésus, c'est de glorifier son Père. Ça a toujours été cela, ça sera toujours cela. Et dans tout ce que Jésus a fait, et dans tout ce que Jésus a accompli, son incarnation, sa mort, son humiliation, c'était encore pour glorifier son Père. C'est ce qu'il dit ici dans ce texte. Donc, quel est le plus grand désir de Jésus, rappelons-nous? C'est pour Jésus de glorifier son Père. Et quel est le plus grand désir des chrétiens? Le plus grand désir des disciples? Alors, je pense que vous avez la réponse. On va regarder cela ce matin, ensemble. Le plus grand désir, on n'en a pas qu'un désir, j'imagine, on en a plusieurs, mais celui qui est au-dessus de tous, le plus grand, donc le premier. Ensuite, on verra pourquoi ce désir est-il si important. Et puis, nous terminerons avec un petit test. Vous voulez qu'on passe tout de suite au test? Non, vous allez attendre un peu. D'accord, il faut préparer un peu les esprits, les cœurs pour arriver au test. On va commencer par le plus grand désir du disciple. Nous sommes ici parce que nous croyons que Jésus a accompli une œuvre de salut pour l'humanité. Nous avons entendu parler de cette œuvre. À travers l'Évangile, nous avons été touchés, nous avons été convaincus, persuadés. Nous avons cru et nous croyons que nous sommes les bénéficiaires de l'œuvre que Christ a accomplie. Et les bénéfices sont extraordinaires. Dans cette œuvre de salut, il y a l'œuvre de justification, par exemple. D'injustes que nous étions, nous devenons justes. Pas rien, ça. De condamnés que nous étions, nous devenons innocents. C'est pas rien, ça c'est le salut. Ce sont les bénéfices du salut. C'est le pardon que Dieu nous a donné. Lorsqu'il nous a pardonné de toutes nos iniquités, les iniquités passées, mais présentes et même à venir. Tout a été traité à la croix. Il nous a donné la vie éternelle, fait partie des bénéfices du salut. Cette vie qui nous permet, c'est-à-dire la vie de Dieu, qui nous permet cette relation avec Dieu, cette communion avec lui. Donc quand on parle du salut, on parle de tout cela en fait. On parle de la justification, du pardon, de la réconciliation, de la vie éternelle, de la relation avec Dieu. Mais tout cela, c'est pour un but. Tout ce que je viens de citer, ça n'est que des moyens de ce que Dieu a fait en nous pour un but. Et le but nous est donné dans 1 Pierre 3:18. En effet, Christ est mort une seule fois pour les péchés, lui, juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, afin de nous conduire à Dieu. Nous conduire à Dieu pour que nous puissions, comme on l'a chanté tout à l'heure, lui dire « Tu es celui pour qui je vis ». On a répété plusieurs fois ces paroles. Tu es celui pour qui je vis. En fait, ma plus grande satisfaction en tant que chrétien aujourd'hui, c'est de vivre pour lui. C'est donc le glorifier, en fait. C'est de faire avec Jésus ce que Jésus fait avec le Père, ce que le Père fait avec le Fils. C'est de faire la même chose. C'est de trouver toute sa satisfaction, toute sa joie, toute sa plénitude dans l'autre. C'est-à-dire pour nous en Christ. Et ça, c'est le but. Pour atteindre ce but, nous avons eu besoin de la justification, du pardon, de la réconciliation, de la vie éternelle. Tout cela, c'est indispensable, c'est extraordinaire. On n'aurait que ça, ça serait déjà extraordinaire. Mais ça n'est que des moyens de nous rétablir, pour nous rétablir dans une relation, pour nous amener à Dieu, pour être avec lui. Dans les termes de ce que Jésus dira dans cette prière au verset 24, je ne l'ai pas indiqué là, mais je vous le lis. « Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi. » C'est ça. Ça, c'est le but. Ce qui fait que notre plus grande joie à nous, notre plus grand bonheur, c'est d'être avec lui, c'est de lui être agréable. Nous sommes heureux quand lui est heureux, en fait, par rapport à ce que nous faisons, à ce que nous sommes. Ça, c'est le plus grand désir du disciple que nous sommes, en fait. C'est ce désir-là et c'est celui qui a été plusieurs fois exprimé dans les chants que nous avons ensemble chantés tout à l'heure. On a exprimé cela, notamment « Je te loue, Éternel, tu es la lumière de ma vie. Tu es celui pour qui je vis. » Mais pourquoi est-ce si important? Pour cela, on va lire un texte dans la deuxième lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 3. Quand Paul termine ce chapitre en disant « Nous tous qui le visage découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit. » Quelle parole, quelle parole. Il dit, nous contemplons, nous regardons comme dans un miroir. Je suppose que ce matin, c'est ce que vous avez fait. Sinon, vous ne seriez pas aussi présentable. Non ? Vous êtes tombé du lit, puis vous êtes arrivé ici tout de suite comme ça ? Remarquez, il y a des fois, il y a des gens qui ont l'impression que c'est ça. Mais pas vous. Ce matin, vous êtes obligatoirement passé devant le miroir pour refaire, pour remonter, pour reconstruire ce qui a besoin d'être reconstruit. Non, je parle pas pour vous, je parle pour moi. Si vous aviez vu ma tête ce matin en me levant, si j'étais resté avec cette tête-là, vous ne resteriez pas ici, c'est sûr. Non, faut pas exagérer quand même. Non, mais on peut exagérer, ça fait du bien des fois. Mais comment est-ce que vous vous regardez dans un miroir? Si vous deviez regarder, là en ce moment, votre voisin, votre voisine, de la même manière que vous vous regardez dans un miroir, vous savez ce qu'il dirait, celui qui est à côté de vous? Il dirait, hein, pourquoi tu me regardes comme ça? Non? Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi est-ce que tu me regardes comme ça? Ta tête me plaît pas? Ma tête te plaît pas plutôt? Essayez. Non, c'est pas la peine. Vous savez, quand on se regarde, et surtout le matin après, bon, mais le matin surtout, on se regarde de près. On regarde de près Alors, quand on cherche des pellicules, enfin pour ceux qui ont des cheveux, bien sûr. Puis tout dépend si on a un homme ou une femme. C'est sûr. Apparemment, le sexe qui passe le plus de temps dans la salle de bain, on sait qui c'est. Hein. Moi, j'avais trois femmes à la maison. J'avais une femme, une épouse et deux filles, vous voyez. Et une salle de bain pendant un temps. Alors, tout dépend. Je me suis aperçu que, entre notamment les jeunes et les vieux, on ne cherche pas les mêmes choses, vous voyez. Moi, maintenant, je cherche des choses que je ne cherchais pas quand j'avais 17 ans. Quand j'avais 17 ans, je cherchais ben, les boutons, vous voyez, avec l'acné, là, quand ça commence à pousser de partout, là. C'est en fleurs. Aujourd'hui, je cherche ce que j'appelle des poils intempestifs. Vous voyez ? On se dit, mais pourquoi il va se nicher là, celui-là ? Hein ? La barbe, ça va, mais dans les oreilles, enfin voilà, je ne veux pas faire le descriptif, vous voyez ? On est surpris, c'est un poil intempestif qui tombe mal. Intempestif, ça veut dire qu'il tombe mal. Mais il n'est pas à sa place. Le but de ce regard que nous avons dans ce miroir, c'est de repérer les moindres petites imperfections. On cherche celles que les autres ne verront jamais, en plus, vous voyez ce que je veux dire. Mais sinon, on les voit, c'est trop déjà. Donc on cherche à repérer la plus petite imperfection et à l'éliminer, si c'est possible. Pour être présentable, pour venir ici le dimanche matin et être sous notre meilleur jour devant les autres. Pour qu'ils ne fuient pas en nous regardant. Bien Paul, quand il dit dans ce texte, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, c'est-à-dire nous regardons Christ, et c'est comme un miroir. Et à ce moment-là, comme un miroir, ben, il va révéler aussi nos imperfections. Et là, ce n'est pas physique, plutôt moral, intérieur. Il révèle cela. L'apôtre Paul prendra la même image pour parler de la parole de Dieu. Vous savez, il dira que la parole, parlant à ses auditeurs, il dit, soyez pas des auditeurs, pas l'apôtre Paul, l'apôtre Jacques, pardon. Jacques dira, soyez pas des auditeurs oublieux, qui font comme ceux qui se regardent dans un miroir et qui oublieraient ce qu'ils ont vu. Et effectivement, c'est de cela dont Paul nous parle. Il nous dit, quand nous regardons à Christ, quand nous glorifions Christ, lorsque nous sommes avec Christ, lui va nous montrer des choses que nous, tout seuls, on ne verrait jamais. Et là, il nous les montre. Il dit, ça va pas. Ça, c'est pas bon. Ça, il faut le retirer. Il nous montre les moindres détails et c'est dans ce processus que Paul nous dit, nous sommes transformés en la même image pour ressembler à Christ, justement. Paul ne dit pas, bon, si vous avez besoin d'humilité, alors vous allez devoir observer de près toutes vos pensées orgueilleuses. Dès que vous avez une pensée orgueilleuse, il faut vite la détruire. Oui, on peut pratiquer ça, mais ce n'est pas ce que Paul nous demande de faire. Parce que si je pratique cela uniquement, prenons l'exemple de l'humilité, je veux être humble, donc je me dis, moi, je vais combattre toutes mes pensées orgueilleuses. Et si j'arrive à combattre mes pensées orgueilleuses, comment est-ce que je vais me sentir ? Bon, je vais être fier de moi. Hein. Ah, du coup, ce que je cherchais à faire, ça n'arrive pas. C'est pas comme ça qu'il faut faire. C'est trop souvent comme ça que l'on fait. On a besoin de courage, on se dit, oh là là, on va lever nos manches, puis on va être déterminé, plein de bonne volonté, la maîtrise de soi. Ça, cette méthode, vous savez, c'est la religion qui préconise cela. C'est pas l'évangile. Mais trop souvent, on fait comme si c'était comme ça. Et quand on fait comme ça, ça peut donner des résultats. Oui, ça peut donner des résultats, certes, mais très limités. Paul nous dit, nous sommes appelés à contempler Christ, à glorifier Christ, à être en communion avec lui. Et quand nous contemplons Christ comme nous regardons dans un miroir, cette gloire du Seigneur, elle rejaillit, elle nous saisit, elle nous transforme. Le mot gloire en hébreu, à l'origine, tout à l'origine, signifie poids, quelque chose de pesant. Si nous disons que nous croyons en Dieu, que nous croyons dans sa sagesse, par exemple, nous croyons dans son amour, nous croyons dans sa puissance, mais que je suis dans un état d'inquiétude chronique. Oui. D'un côté, je dis, ah, je crois que Dieu est tout puissant, je crois que Dieu m'aime, je crois qu'il est plein de sagesse, mais je vis constamment dans l'inquiétude. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sa sagesse, sa puissance, son amour ne m'ont pas impacté. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de poids sur ma vie. Ils n'ont pas d'influence. Il y a bien des choses qui nous influencent. En fait, d'une certaine manière, tout ce que nous admirons, tout ce que nous adorons, nous influence. Si nous adorons Dieu, si nous glorifions Christ, comme on le voit, c'est lui qui va nous influencer. Mais si nous glorifions autre chose, si nous admirons autre chose ou une autre personne, c'est ces choses-là ou cette personne-là qui vont nous influencer. J'ai lu un article, quelque temps de cela, 2-3 ans, je crois que j'en avais parlé une fois, mais je vais revenir dessus, sur une actrice de cinéma d'Hollywood avant les années 30. Si je vous dis son nom, je suis sûr que vous la connaissez pas. Elle s'appelle Louise Renner. Il y a quelqu'un qui connaît Louise Renner? Si je vous dis Greta Garbo, tout le monde la connaît, Greta Garbo. Louise Renner, on dit... Et pourtant, dans les années 30, à Hollywood, elle était plus connue que Greta Garbo. Pourquoi ça? Elle est morte il n'y a pas longtemps. Vous voyez qu'elle avait 104 ans quand elle est décédée. Et elle était plus connue que Greta Garbo parce que, comme c'est écrit ici, en 37 et 38, elle a remporté le prix de la meilleure actrice à 2 reprises, 2 années successives. Ça, c'était jamais fait et ça s'est fait très rarement. Greta Garbo, elle n'a jamais eu d'Oscar. Elle a été nommée plusieurs fois, mais elle n'a jamais eu d'Oscar. Elle a eu un Oscar d'honneur, bien sûr, mais pas un Oscar pour un film. Louise Renner était allemande d'origine, Düsseldorf. Elle ne disait pas qu'elle était allemande parce que c'était avant la guerre. Elle disait qu'elle était autrichienne. Et on l'appelait les larmes viennoises. Parce que justement, dans un de ses films où elle a eu ce prix, un Oscar, elle est au téléphone et elle fait une scène où elle pleure très très bien. Merveilleusement bien. Et on l'appelait les larmes viennoises. Mais ce qui s'est passé dans la vie de cette jeune fille, parce qu'à l'époque, elle n'avait que 21, 22 ans, elle appartenait, et à l'époque, quand vous étiez en contrat avec dans l'industrie du cinéma, avec des studios, vous apparteniez au studio. Vous n'aviez pas le droit d'aller faire un film pour d'autres studios. À tel point que même les studios à l'époque à Hollywood construisaient des résidences pour leurs acteurs et leurs actrices. Et Louise Renner, elle habitait, donc elle était avec les studios de la Metro Goldwyn Mayer, que je pense que beaucoup connaissent, la MGM. Et les studios avaient construit une magnifique résidence, plutôt un palais, pour elle, et elle vivait avec Greta Garbo. Dans la même maison, John Crawford, par exemple, Norma Shearer, c'était 3-4 actrices qui vivaient ensemble. Et c'est les studios qui décidaient des rôles, des personnages que les actrices ou les acteurs allaient faire. Elle avait gagné ses deux Oscars. Et Louis Mayer, de la de la métro Goldwyn-Mayer, Louis Mayer, donc celui qui est à gauche, là, qui lui remet cet Oscar, le grand patron de ses studios de cinéma à Hollywood. Il lui propose un rôle. Et Louise Renner dit « Non, je ne veux pas faire ça. Je ne veux pas faire ce rôle. » Et Mayer le regarde. Il dit « Quoi ? Tu ne veux pas faire ça ?» Et il a ces paroles. Il dit « Tu sais que c'est moi qui t'ai faite comme actrice ? Tu sais que si tu as cette célébrité, si tu as eu ces Oscars, c'est grâce à moi. Et si tu refuses de faire ce rôle, moi qui t'ai faite, je peux te défaire aussi. Moi qui t'ai créée, en anglais c'est I created you and I kill you. I can kill you. Je peux te tuer, littéralement. Je t'ai créée, mais je peux te défaire, je peux te détruire. » C'est comme ça qu'il lui a parlé. Voilà, il était là, il semblait qu'il dominait le monde, qu'il faisait ce qu'il voulait. Et Louise Renner va lui répondre, dire « Monsieur Mayer, c'est pas vous qui m'avez faite. C'est Dieu qui m'a faite. Vous arrêtez mon contrat, oui, vous pouvez l'arrêter, vous avez le pouvoir de l'arrêter, ce contrat. Mais c'est pas pour autant que ma vie sera finie. Parce que ma vie, c'est pas ça. Mon identité, c'est pas le cinéma. C'est pas d'être une star d'Hollywood. Elle est ailleurs. Au revoir, Monsieur Mayer. » Elle a claqué la porte. Elle a jamais pu faire de film après. C'est pour ça que on n'a jamais entendu parler d'elle. Parce qu'elle a fait ce choix-là. Elle a eu sa vie. Elle a eu une longue vie même. Mayer, lui, pensait avoir du poids sur cette actrice, comme il l'avait sur beaucoup d'acteurs et d'actrices, pour en faire ce qu'il voulait. Et les acteurs et les actrices qui étaient sous son influence, bien évidemment, ils acceptaient. C'est la raison pour laquelle Paul nous dit que nous sommes transformés à la ressemblance de ce que nous admirons. Prenez l'exemple d'une jeune fille, d'un jeune homme, peu importe, qui est amoureux de quelqu'un et il parle, il exprime, il fait sa déclaration et puis la jeune fille dit « Non, non, moi, je n'ai pas de sentiment pour toi, ça ne pourra jamais aller ensemble. » Une certaine personne. Et ce garçon, il est complètement démoli par ça. Complètement. Sa vie, il est en dépression, il n'endort plus, il ne veut plus manger. Qu'est-ce qui se passe là? Il se passe ce qui ne s'est pas passé pour Louis Renner. C'est comme si cette jeune fille lui disait, tu sais, moi je peux te créer. Et je peux te détruire aussi. Et c'est comme s'il lui disait, oui, tu peux faire cela. Parce que cette jeune fille, elle a plus de gloire. Elle a plus de poids et plus d'influence que tout le reste dans sa vie. Et s'il est croyant, plus que Dieu lui-même à ce moment-là. Quelqu'un qui se dit chrétien, croyant, et qui vit constamment avec la peur de manquer, par exemple, qui vit dans des insomnies, qui devient irritable, irascible, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que l'argent a plus de poids que Dieu. Que ce Dieu qui se révèle dans la Bible comme Yahvé Jiré, celui qui pourvoit nos besoins. Alors on peut très bien dire, oh le Seigneur pourvoit mes besoins, je prie parce que le Seigneur pourvoit mes besoins, mais si je passe ma vie dans des insomnies et dans l'irritation parce que j'ai peur de manquer, qu'est-ce qui a le plus de poids? C'est Dieu ou c'est l'argent? Ça c'est vrai avec tout. C'est vrai avec les personnes qui sont autour de nous. C'est vrai avec une activité professionnelle, c'est vrai avec le sport, c'est vrai avec toutes sortes de choses. Dès qu'elles ont plus de gloire que Christ, alors nous laissons ces personnes ou ces choses même avoir plus de poids et plus d'influence que Dieu lui-même, que Christ lui-même dans ma vie. Et c'est pour ça que Paul dit, le plus important, il nous montre le plus important, le plus grand désir, c'est Christ lui-même. Christ pour moi. L'amour de Dieu, est-ce qu'il y a de plus important pour moi? C'est là que ma joie demeure, que ma satisfaction est là, totale. C'est la raison pour laquelle nous devons nous concentrer sur la gloire de Christ. C'est lui qui va nous donner la vraie liberté. Ça ne veut pas dire que d'autres ne peuvent pas avoir d'influence sur nous, bien évidemment. Mais pas plus d'influence ou plus de poids que la gloire de Dieu. Vous avez saisi ça? Non, je recommence alors. Mais contempler la gloire de Dieu, c'est contempler Christ et dans ce que Christ a fait pour nous. C'est contempler sa gloire dans l'œuvre de la croix, en fait. Contempler la gloire de Dieu, on peut en parler comme ça, mais ça peut être très abstrait, vous voyez. On imagine un Dieu comme ça, plein d'amour, trois fois saint, on dit « Ah ouais, c'est beau, c'est magnifique », mais enfin là, c'est très loin ça, c'est très vague, c'est très flou. C'est un peu comme mettre l'océan dans une bouteille, vous voyez, c'est impossible. Paul nous dit comment faire, quelques versets plus loin, donc toujours dans la même épître aux Corinthiens, la deuxième au chapitre 4 cette fois-ci, j'ai pris quelques extraits de ces versets 3 à 6. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, afin qu'ils ne voient pas resplendir le glorieux évangile du Christ qui est à l'image de Dieu. Donc, pour ceux qui périssent, pour ceux qui ne croient pas, l'évangile est voilé. Et parce qu'il est voilé, ils ne voient pas la gloire de Christ dans l'évangile, c'est-à-dire dans cette œuvre qu'il a accomplie, dans son incarnation, dans sa crucifixion. Donc, ça veut dire que si le voile est ôté pour moi, et c'est le cas pour nous aujourd'hui, si nous croyons dans cette parole, si nous sommes plus de ceux qui périssent, mais ceux qui sont sauvés, eh bien, c'est parce que nous voyons le glorieux évangile du Christ. Lorsque nous ouvrons cette parole et qui est l'image de Dieu, Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, cette lumière donc a brillé dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la face de Christ. Vous avez des expressions comme ça que Paul utilise, comme à la fin, dans le verset 18, à la fin du chapitre 3, où il parle d'être à visage découvert, ou alors il parle ici de voile, il dit l'évangile est encore voilé. Bien sûr, il fait référence, quand on connaît l'Ancien Testament, il fait référence à ce qui est arrivé à Moïse. Vous savez que Moïse, lui, une de ses prières a été de dire à Dieu, montre-moi ta gloire. Et Dieu ne pourra pas lui montrer toute sa gloire. Il va lui montrer un aspect, mais pas tout. Vous connaissez l'image du creux, du rocher, etc. Et Moïse, c'était le désir de Moïse de pouvoir glorifier Dieu et de voir sa gloire, parce que dans sa gloire, il allait être transformé aussi. Et cette gloire qu'il a vue, un aspect de cette gloire, était tel que son visage, lui, a commencé à rayonner. Et quand il est descendu de la montagne, les Israélites ont dit, on ne peut pas te regarder, c'est pas possible, il faut que tu mettes un voile. Il est obligé de mettre un voile. Tellement c'était violent pour son entourage. Lorsque, aujourd'hui, ce que Moïse n'a pas pu voir, au travers de Jésus, Dieu nous le fait voir. Et on n'a plus besoin de voile. Au travers de l'œuvre d'incarnation. Jésus est... On découvre que Jésus est le seul à vivre en glorifiant son Père. L'homme, lui, a décidé depuis le jardin d'Éden de ne pas glorifier Dieu, mais de se glorifier. L'homme, il vit pour cela, vous savez. Nous vivons pour cela. Par nature, nous vivons pour nous glorifier. C'est le choix que l'homme a fait depuis le jardin d'Éden. Et dans l'incarnation, Christ est devenu le seul être sur terre à vivre uniquement pour glorifier son Père. Cette œuvre qu'il a accomplie, c'est le seul, ça a été le moyen pour nous de pouvoir revenir vers Dieu, de pouvoir le glorifier à nouveau, parce que lui, il a perdu cette gloire qu'il avait. Et c'est ce qu'il dit dans Jean 17. Donne-moi la gloire que j'avais auprès de toi. Et on peut dire qu'il a perdu définitivement lorsque sur la croix, il a prononcé ces mots que j'ai rappelés dimanche dernier. Mais là, je le dis dans la langue dans laquelle Jésus a prononcé ces mots en araméen, « Lama, lama, sabachthani. » Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» C'est lorsque nous regardons cela, nous contemplons cela, que nous sommes transformés. Et que nous manifestons ce désir de le connaître davantage. Pourquoi Jésus a institué cette table de Sainte-Cène ? Pour qu'on ne s'arrête jamais de contempler cela. Parce qu'il sait, c'est qu'en contemplant cette œuvre et cet amour qu'il a manifesté dans cette œuvre à la croix, c'est là qu'il nous transforme. C'est là qu'il nous change, afin de lui ressembler. Et nous arrivons, pour terminer, à notre petit test. Vous êtes toujours là ? Vous êtes prêts ? Vous avez bien entendu ce que j'ai dit ? Alors, on va vérifier. Le test, il est sous la forme d'une question. Très simple. Pourquoi êtes-vous venu ici ce matin ? Vous êtes posé la question ? Je vous demande d'y répondre pour vous-même, maintenant. Pourquoi sommes-nous venus ici ce matin ? Nous pouvons venir ici le dimanche matin, pour plusieurs raisons. Première raison, par devoir, par obligation. Et parfois, on parle des obligations religieuses. Les gens qui parlent comme ça. Ce sont nos obligations religieuses. Alors, si je suis ici ce matin, Daniel, c'est parce que, bah oui, c'est mon devoir. C'est par obligation que je suis là. On peut venir comme ça. Pour ça. Une autre raison pour laquelle nous pouvons venir ici, c'est par habitude. Ah oui. Vous savez qu'il y en a qui viennent ici depuis 50 ans quand même. Hein. C'est quand même une petite habitude ça dans une vie. Quand vous faites tous les jours le même geste, toutes les semaines, le même geste pendant 50 ans, ça devient une habitude. Donc je peux venir ici aussi parce que j'ai l'habitude de venir tous les dimanches. C'est ce qu'on appelle la tradition religieuse. En religion, c'est un mot, ça. C'est la tradition. Mais il y a des gens qui sont très attachés à la tradition. La tradition religieuse est très importante. Je pourrais ajouter un autre. Et ça me concerne que moi. Là, qui me regarde, il dit, tu te prends pour qui, toi ? Dans le sens où je suis le seul à être payé ici, pour être ici. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc moi, je peux venir ici pour l'argent. Vous, non, parce que c'est vous qui donnez l'argent. Vous, vous n'êtes pas ici pour l'argent. Mais moi, je viens ici et je suis payé. C'est quand même pas mal. Alors moi, j'ai une autre raison supplémentaire que vous, voyez. Devoir, habitude, argent, pour ceux qui sont payés. Et quatrième raison, je pense que c'est celle-là que vous allez me dire. C'est celle-là qu'il faut retenir. L'amour. Ouais, je crois que vous êtes d'accord. L'amour. Je vais vous donner une petite illustration pour illustrer, parce qu'une illustration, ça sert à illustrer cela. la vraie motivation. Vous savez que je suis marié depuis quelques années. Ma femme est là. Elle ne sait pas encore. Enfin, elle sait qu'on est marié, mais elle ne sait pas ce que je vais lui dire et ce que je vais dire. Et parce qu'on est marié, quand on est marié, c'est vrai pour tous ceux qui sont mariés, il y a ce qu'on appelle l'anniversaire de mariage. Non, c'est pas tout de suite. Hein. Ça va. J'ai le temps de me préparer. Cette année encore, ça va. Mais l'année prochaine, ça va être une grosse date. Ouh là là. Oh. Faut pas que je l'oublie, celui-là. Alors, imaginez que c'est mon anniversaire de mariage. Notre anniversaire, pas le mien seulement. Notre anniversaire de mariage. Et pour cela, je fais ce que je fais à chaque fois. Je vais chez le fleuriste. Et je vais acheter des fleurs. Mais là, cette fois-ci, au lieu d'arriver directement à la maison, je sonne. D'habitude, quand j'arrive chez moi, je sonne pas. J'ai la clé, je rentre. Comme vous, certainement. Mais là, je sonne. Comment ça fait ? Ding ! Je ne vais pas sonner souvent. Hein. Je sonne, et puis la porte s'ouvre. Elle est surprise, elle me dit, mais pourquoi tu sonnes ? Et là, je lui dis, mais je sors mon bouquet qui est là, discrètement derrière. J'ai du mal à cacher parce qu'il est tellement grand. Mais marqué, moi, je suis pas grand non plus, alors. Et je sors et je lui dis, voilà, c'est pour notre anniversaire de mariage. Alors là, oh, que c'est beau, que c'est magnifique. Enfin, je suis pas un bon acteur, vous savez. Elle est là, elle dit, oh, c'est merveilleux, enfin... Tu as pensé, oui. Et puis, et à ce moment-là, je lui dis, mais tu sais, c'est normal. C'est mon devoir. Je suis allé à la préparation mariage et le pasteur a dit que pour l'anniversaire de mariage, il faut acheter des fleurs à sa femme et de préférence des roses. Alors je fais mon devoir. Pourquoi vous riez ? Non, mais pourquoi vous riez ? Pourquoi vous riez ? Qu'est-ce qu'il y a de mal dans le fait de faire son devoir ? Faire son devoir, c'est quelque chose de bien, quand même. Il y a des métiers ici. Il y a des militaires, il y a des gardiens de prison, il y a des pompiers, il y a des policiers. Vous savez, ce sont des métiers où on sait ce que c'est le sens du devoir. Quand des militaires sont blessés sur le terrain et qu'ils reviennent en France et que les autorités, le président ou le ministre de la Défense va les voir à l'hôpital, qu'il est là pour les remercier au nom de la France pour leur courage, leur abnégation, leur dévouement et tout ça. Vous savez ce que le militaire répond à chaque fois ? À chaque fois ! Il dit, mais monsieur le président, je n'ai fait que mon devoir. C'est ce qu'il dit ? Donc pourquoi vous avez ri ? Le devoir, c'est quelque chose de bien. C'est quelque chose d'important. C'est une valeur noble, le devoir. Mais je sais pourquoi vous avez ri. Et vous avez bien fait de rire. Parce que si vous savez aussi comme moi que le devoir est une noble valeur, dans ce contexte-là, c'est pas ça qu'il faut. C'est même grave à ce moment-là. Donc, je recommence à ce moment-là. Je reviens à la porte, je sonne. J'ai toujours mon bouquet. Vous voyez la scène. Et puis là, je lui dis, ah, voilà, c'est pour notre anniversaire. Pourquoi tu as sonné ? Enfin, voilà, vous connaissez maintenant. C'est pour notre anniversaire de mariage. Et là, je lui dis, tu sais, ce qui me fait le plus plaisir, c'est quand tu es heureuse. Ce qui me fait le plus plaisir, c'est de te voir joyeuse. C'est de savoir que je t'ai fait plaisir. Ma plus grande joie, c'est de savoir que tu es heureuse. Alors de plus, je lui dis, j'ai pas seulement des fleurs, mais j'ai réservé une bonne table au restaurant que tu préfères. McDo. C'était pas écrit dans mon scénario, ça. Alors prépare-toi. Prépare-toi vite. Enfin, il faut lui donner au moins 3 heures. Hein. Imaginez à ce moment-là qu'elle réponde. Quand je lui dis, moi, mon bonheur à moi, ma joie à moi, c'est de savoir que tu es heureuse. Et si elle me répond, ah, t'es toujours le même. Hein? T'es toujours aussi égoïste. Tu penses qu'à toi. Moi, être heureux, moi, être heureux. Bizarre quand même, là. Hein? Bizarre. Parce qu'en fait, chercher sa satisfaction dans la satisfaction de l'autre, c'est plutôt une bonne chose. C'est pas de l'égoïsme, ça. Dans la première partie, quand je parlais du devoir, ça ne collait pas parce que, à ce moment-là, parlant du devoir, elle n'était pas honorée. Elle n'était pas valorisée. Elle n'était pas désirée. Alors que là, en lui disant « si je fais cela, parce que ma satisfaction, c'est que toi, tu sois satisfaite, c'est ma joie, c'est que toi, tu sois heureuse », là, à ce moment-là, je l'honore. Je la glorifie, je la valorise. Alors pourquoi êtes-vous venu ce matin ici? Ah oui, vous aviez oublié du coup. C'est quand même ça le test. Nous arrivons ici, nous sonnons à la porte aussi. Là, la porte du ciel. Et Dieu nous dit, ah bonjour, je suis heureux de te voir. Pourquoi es-tu venu? Oh, le Seigneur, c'est mon devoir. Je suis là parce que c'est mon devoir. Un bon chrétien, il vient à l'église tous les dimanches. Un bon chrétien, il lit sa Bible, il chante des cantiques. Alors je fais mon devoir, Seigneur. Vous savez ce qu'il fait à ce moment-là? Il ferme la porte. Il ferme la porte. Si nous sommes là, comme nous pouvons être, face à ceux que nous aimons, et que lorsque nous voulons les glorifier, lorsque nous voulons les honorer, si nous faisons la même chose à ce moment-là, lorsque nous venons ici, que nous disons, mais Seigneur, si je suis là, oui, c'est vrai, j'ai l'habitude de venir. Oui, c'est vrai, tu m'as demandé de le faire. Oui, bien évidemment, mais la principale raison pour laquelle je suis là, c'est parce que ma satisfaction, Seigneur, c'est que toi, tu sois satisfait. Mon plus grand bonheur, c'est que toi, tu sois heureux. Alors, si nous faisons cela, il ouvre la porte et il vient et il descend et il se manifeste. Mais c'est là qu'il faut bien mesurer ou sonder nos cœurs, vous savez. Parce que en vous posant la question, tout le monde a répondu certainement en disant, mais c'est par amour. Mais qu'est-ce que ça veut dire vraiment pour nous dans notre vie? Vous savez, un jour, quand Dieu va s'adresser à Moïse au sujet de la nation d'Israël, il dira dans cette belle phrase à Moïse au sujet d'Israël, il dit « parce que vous m'appartiendrez ». Littéralement, en hébreu, c'est « vous êtes mon trésor ». C'est ce qu'il dit. C'est comme ça que Dieu voyait Israël. Vous êtes mon trésor. C'est peut-être ça, parfois, le nom et le mot que vous utilisez pour parler à quelqu'un que vous aimez beaucoup. Hein. Mon trésor. Dans les termes affectifs qu'on utilise, il y a parfois ce mot-là, mon trésor. Ça veut dire quelqu'un qui est précieux, plus que tout. Eh bien, c'est ce que Dieu va dire à Moïse au sujet d'Israël. Il dit, mais c'est comme mon trésor. Le salut que nous avons reçu et qui nous a, au travers de Christ, qui nous a, comme on l'a vu dans Pierre, amené à Dieu, c'est afin que Dieu puisse devenir notre trésor. Christ soit notre trésor. Et s'il est notre trésor, il n'y a pas de plus grande joie que de le satisfaire. En lui montrant que notre plus grande satisfaction, c'est de lui faire plaisir, c'est de lui être agréable. Pourquoi sommes-nous venus ce matin? Si nous sommes venus dans cet esprit-là, alors on peut chanter ce cantique qu'on a chanté tout à l'heure, « Je te loue, Éternel, tu es le soleil de ma vie. Tu es celui pour qui je vis. » Paul dira, « Christ est ma vie. » Et la mort m'est un gain. Pour Paul, Christ était tout, plus que tout le reste. Il y avait des choses qui étaient importantes pour Paul, comme pour nous. Il y a des gens qui étaient importants, oui, mais au-dessus, c'est Christ qui était le plus important. Christ était sa vie. Christ est notre vie. On va prier ensemble. Seigneur, aide-nous à sonder nos cœurs et nos pensées ce matin. Nous avons besoin de ton aide parce que nous pouvons facilement nous tromper sur nous-mêmes. Nous avons besoin que ton esprit sonde nos cœurs, Seigneur, pour savoir exactement pourquoi nous sommes ici, pourquoi nous faisons ce que nous faisons, pourquoi nous te servons. Afin, Seigneur, que ça soit toujours, Seigneur, et de plus en plus, motivé par l'amour que nous avons pour toi, par-dessus tout, Seigneur. Pardonne-nous chaque fois que ça n'a pas été cela, et que nous sommes venus par devoir ou par habitude, que nous avons fait ce que nous avons fait par devoir ou habitude. C'est pas ce que tu attends. Dans notre relation avec toi, ce que tu attends par-dessus tout, c'est notre amour. Toi qui nous considères comme ton plus cher trésor, que nous puissions te considérer, Seigneur, comme notre plus cher trésor. Notre plus grand trésor. C'est pour cela que nous pouvons te dire notre vie t'appartient, Seigneur. Et nous voulons te mettre au-dessus de tout. C'est pour cela que nous sommes heureux d'être ensemble ce matin, parce que nous partageons ce même amour pour toi, Seigneur. Et nous pouvons ensemble l'exprimer, Seigneur, et le célébrer, Seigneur.